Il est 15h00, de l'émission Directeur sous les toits, et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie et toute l'équipe. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bienvenue à tous pour la première fois dans les nouveaux locaux de Fréquence Mistral. Nous sommes nombreux aujourd'hui autour de la table. Nous accueillons de nouveaux lecteurs, Blanca et Jean-Loup, et les habitués, Alphonsine, Françoise, Robert, Chantal, Nathanaël et Sylvie. Alors Nathanaël, qu'avons-nous aujourd'hui au programme ?
Robert va nous présenter Le cœur du pélican de Cécile Coulon. Françoise et Jean-Loup, ça sera Le principe de Jérôme Ferrari. Blanca va nous présenter une bande dessinée Svoboda de Chris et de Jean-Marie Ando. Chantal va nous présenter un livre de Philippe Mathieu Entorse. Alphonsine nous parlera de La Malle d'Isabelle Marie. Avec Sylvie, nous parlerons d'Americana, d'Adichie, Chamanda Ngozi. Et Robert, enfin, on finira avec lui, va nous parler de La Petite Fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel de Romain Puertolas.
Robert va donc nous parler du cœur du pélican de Cécile Coulon.
Le personnage principal de ce roman, Antime, a en quelque sorte trois vies. Pour illustrer sa première vie, je vous lis maintenant le passage suivant. Regardez-moi, j'étais le champion de 17 ans. Mes cheveux sentaient bon, mes dents brillaient. J'étais grand, mince, musclé. J'avançais vite. Je parlais peu et bien, je souriais aux filles. Ma famille était fière de moi. Je t'en foutrais de la beauté. La beauté est un mensonge qui vous dépasse, qui vous écrase, qui vous bouffe. Et ça vous plaît. Vous en redemandez encore et encore, jusqu'à l'indigestion. J'étais la beauté, l'incarnation d'un rêve dont vous n'avez jamais réussi à vous contenter. Alors ne venez pas me cracher dessus simplement parce que j'ai quitté le masque. Ne venez pas me dire que je vous déçois, parce qu'entre nous, vous m'avez déçu si tôt, si brutalement, que vous mériteriez de vous faire arracher les chicots à la petite cuillère. Comment osez-vous me dire que je me suis trompé ? Je n'ai pas choisi mon camp, je suis né dedans. Alors ne venez pas me dire que tout est de ma faute. Vous êtes responsable de ce que je suis devenu. Je suis tombé parce que j'avais tellement peur de vous décevoir. Je suis tombé parce que vous n'auriez jamais eu l'intelligence de me pardonner si je n'avais pas participé à cette course. Il a donc participé à une course de haut niveau. C'était un coureur de classe internationale. Et malheureusement, il s'est blessé et il est tombé. Et il a dû arrêter de courir. Il était trop blessé. Alors va commencer sa deuxième vie. Il se marie avec une voisine qui était follement amoureuse de lui. Mais lui, il aimait une autre personne, Béatrice, qui n'a plus voulu voir à partir du jour où il est tombé, alors qu'il s'aimait très fort. Il s'est mis à beaucoup manger, à boire des bières, prendre du poids, et cela pendant près de 20 ans. Mais un jour, au cours d'un apéritif avec des anciens supporters, il va se passer quelque chose qui va le faire changer de vie pour la deuxième fois. Je vous lis maintenant le passage concerné de ce changement. Donc c'est un dialogue entre Antime et ses anciens camarades de sport. « Dis donc, Antime, tu te laisses aller ?» cracha le rase moquette, l'œil rivé sur le bar à la recherche d'une autre bouteille. « On t'a connu plus... »« Plus quoi ?» grinça l'ancien champion, concentré sur la bouche de son inquisiteur. Ce dernier choisit mentalement ses armes avant de répondre. « Plus affûté. Avec les pneus qui te servent d'arrière-train, tu ne pourrais pas courir 800 mètres en moins de 10 minutes. » Ses comparses s'esclaffèrent. Antime baissa la tête. Il tenta de joindre son rire au leur, mais il revit soudain son corps dans la glace au moment d'enfiler sa chemise blanche. L'abruti avait raison. « Ton ventre, on aurait plutôt parlé de grabdomino !» Nouveaux éclats, tonitruants. Antime rentrait dans la panse, imaginait qu'un fil tirait ses épaules en arrière, il riait à s'en faire exploser la mâchoire. La salive, le vin, les larmes au coin des lèvres. Impossible de quitter la cuisine, les joueurs l'encerclaient. « Quand je pense que ma mère te considérait comme un héros, » rétorqua le défenseur, « si la pauvre femme te voyait aujourd'hui, elle en avalerait son dentier. » La pauvre femme n'avait pas été la seule à penser qu'Antim représentait pour des années à venir la petite ville insignifiante oubliée sur la carte nationale. « Quel gâchis !» conclut le plus timide des quatre. Antim se tourna si brusquement qu'il faillit renverser son verre. Ses yeux, d'habitude placides, tentaient de percer la carcasse musculeuse de l'adversaire. « Tu as raison, » répondit-il doucement. « Tu as parfaitement raison. » À gauche, le petit teigneux cessa de sourire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sans quitter sa proie du regard, il leva lentement la main. « Je vais reprendre, » dit-il en baissant l'index contre son torse. Dans le couloir, un couple de jeunes mariés assistait médusé à la scène, rire évanoui. On entendait les bruits de vaisselle, les conversations de l'autre côté. Qu'importe, accroché à la bouche d'Antim, le public attendait la sentence. « Arrête, on se moque de toi, ce n'est pas méchant. » Le défenseur, mal à l'aise dans son costume trop serré, tentait d'apaiser le chien prêt à bondir. « Je vais reprendre, personne ne peut m'en empêcher. » Alors, la teigne lança un bref clin d'œil à son ami par-dessus l'épaule d'Antim. Un fou rire lui secoua les côtes. Il oublia instantanément la fureur de l'ancien champion. Les trois joueurs se détendirent, avalèrent une autre gorgée de vin et pouffèrent de plus belle. Le teigneux, fier de sa victoire, hurla d'une voix aiguë. « Reprendre l'entraînement ? Pourquoi pas traverser le pays en courant tant que tu y es ?» Quelle va être la troisième vie d'Antim ? Au cours de cette troisième vie, il va retrouver sa sœur, Elena. Quel exploit va-t-il réaliser pour qu'on parle à nouveau de lui ? Vous le découvrirez en lisant ce très beau roman qui a été pour moi un vrai coup de cœur. Je vous en rappelle le titre, Le cœur du pélican, l'auteur Cécile Coulon qui n'a que 25 ans et c'est déjà son troisième roman. Elle a une belle carrière devant elle. Le livre est publié aux éditions Viviane Ami.
Françoise et Jean-Loup vont maintenant vous présenter le principe de Jérôme Ferrari.
Pour commencer, je vais d'abord lire un passage, j'essaierai de le commenter après. Ce salaud de Chardine, il ne croit plus à sa propre théorie. Le Chardine auquel s'adressent ces propos peu amènes d'Otto Hahn vient de prononcer une conférence au cours de laquelle il a doctement défendu l'idée réjouissante que le changement brutal de pression lors de l'explosion d'une bombe provoque, en faisant éclater leurs organes internes, la mort immédiate et indolore de ceux qui ont la chance de se trouver à proximité. Mais sa brillante démonstration a été interrompue par les sirènes d'alerte et maintenant, peu soucieux de saisir une opportunité inespérée de valider sa conjecture, au prix, il est vrai, de l'intégrité d'organes internes qui lui sont particulièrement chers, le voici recroquevillé dans l'obscurité, au milieu de ses auditeurs terrorisés, luttant contre la panique, avec Otto Hahn qui se paye sa tête, tandis que le souffle des tonnes de bombes lancées sur Berlin en cette nuit de mars 1943 fait trembler les murs de l'abri où vous croyez avoir été enterré, mais dont vous finissez par sortir tous sains et sauf. Ce premier passage définit bien, me semble-t-il, l'un des deux pôles de ce livre fascinant, enfin qui habite longtemps le lecteur, le mal absolu. Et Dieu sait que le XXe siècle et même ce début du XXIe siècle ont été féconds dans ce domaine. Le mal absolu, donc, là on comprend qu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. L'autre pôle, c'est la beauté. Le mot revient d'ailleurs plusieurs fois dans le livre. Et le dernier mot de ce livre, c'est beau. Alors que le premier, c'est vous. Vous, parce que ce livre tout entier, c'est une adresse du narrateur, on peut penser que c'est aussi l'auteur, Jérôme Ferrari lui-même, qui s'adresse à Werner Heisenberg.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, et ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui est très important pour chacun de nous, c'est-à-dire comment la créativité de l'esprit de quelqu'un guide la vie de cette personne, même si cette personne ne sait pas toujours tenir les commandes de son existence. Et c'est ce que l'on ressent, enfin ce que j'ai ressenti dans toute cette longue adresse que le jeune philosophe, dont en effet il est à penser que c'est Jérôme Ferrari, envoie à Werner Heisenberg. Heisenberg apparaît tout au long du roman, puisque c'est quand même une sorte de roman, plus qu'un récit, comme quelqu'un d'extrêmement ambigu et d'extrêmement brillant. Je pourrais dire brillant d'abord, ambigu après. Brillant parce qu'il a posé ce principe d'incertitude qui est l'une des bases de la physique quantique, et qu'en posant ce principe d'incertitude, il s'est tout simplement posé à l'encontre des grands physiciens de son temps, Einstein en premier, ça n'était pas rien. La deuxième chose qui fait que c'est un savant important et qui est très attachant à cause de ça, c'est qu'il pose en fait les bases de la bombe atomique avec toute cette réflexion sur l'horreur. Et moi, je vous dirais simplement la phrase que j'ai retenue. Les connaissances qu'il vénérait, il étant les scientifiques, ont servi à mettre au point une arme si puissante qu'elle n'est plus une arme, mais une figure de l'apocalypse. Ils ont tous été des oracles, ils ont tous été des esclaves. Et ces esclaves, ce sont les esclaves de cette fameuse créativité de l'esprit que l'on n'arrive pas toujours à dominer, et par rapport à laquelle, comme dit Jean-Louis, la seule chose pour s'en sortir, c'est de poser au-dessus de tout ça un autre principe, le principe de la beauté. Le principe d'indétermination déborde bien largement le domaine physique pour arriver au domaine sociétal et au domaine philosophique. On peut lire « comme si le principe débordait de toutes parts le monde des atomes pour étendre son influence sur les hommes dont les pensées se colorent des teintes pâles de l'indétermination ». Et tout le trajet de Heisenberg auquel nous assistons est autour de cette indétermination. Le livre est d'une certaine manière le parcours biographique de Heisenberg que nous suivons. On vit avec lui, on vit avec les savants qu'il côtoie. L'auteur ne nous épargne pas toutes les petites mesquineries que ces grands personnages se font, tous les petits mauvais tours qu'ils se font. On vit aussi, même si elle n'est pas là, avec la femme, Elisabeth d'Heisenberg, avec ses enfants. Et tous ces petits côtés ou ces côtés non scientifiques donnent une touche un peu sereine dans quelque chose qui simplement serait simplement terrible. Le livre est aussi, pour moi, l'expression tout à fait touchante de l'admiration sans borne de ce jeune philosophe qui envoie son adresse à ce savant en étant tout à fait conscient de l'ambiguïté et des dangers qu'il y a, en étant conscient qu'il ne maîtrise pas tout, mais en étant conscient que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est une écriture très puissante et très rythmée qui fait beaucoup allusion aux partitions musicales. Il me semble que si on le lisait à haute voix, on pourrait retrouver les croches, les doubles croches, les longues et les brèves, comme disaient les latins. On est dans une espèce de rythme tout à fait intéressant. Ce livre n'est pas facile à lire. On ne peut pas le lire en écoutant la radio ou en faisant autre chose, parce que je pense qu'il vous prend d'une manière importante. Et en effet, la manière dont on peut résister à tout ce mal, à toute cette horreur, c'est de poser un autre principe, le principe de la beauté. La beauté, la splendeur abstraite de la matrice éternelle, toute cette inconcevable beauté qui attendait depuis toujours de se dévoiler à nos yeux. Cette quête de la beauté, elle passe par un seul chemin, et ce chemin n'est pas sans humour et sans apporter une goutte de sérénité. Il faut passer par-dessus l'épaule de Dieu. Et que l'on croit ou que l'on ne croit pas en Dieu, tout cela, c'est un programme. Et moi, il m'a semblé que ce livre était un livre puissant. Et j'ai envie de dire, c'est un livre qui fait grandir, parce qu'on n'est pas tout à fait le même une fois qu'on l'a lu.
Alors personnellement, je n'ai pas trouvé ce livre aussi difficile que cela à lire. Je précise que je suis à littéraire pur, que je n'ai jamais rien compris aux mathématiques, ni à la physique, encore moins à la physique quantique. Quant au principe d'incertitude, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que c'est. Donc les théories scientifiques sont certes très présentes dans ce livre, mais moi, ça ne m'a pas gêné. Je trouve que ça ne rend pas difficile la lecture de ce livre. Alors, il l'a qualifié de roman, je mets roman entre guillemets, parce que bon, c'est un petit peu particulier. Pour moi, j'ai été fasciné par ce chef-d'œuvre, qui est sans doute le plus beau livre de Jérôme Farrari, en tout cas parmi ceux que j'ai lus. Alors, tout au long des quelques 160 pages de ce livre, le narrateur, qui se confond peut-être avec l'auteur, hein, comme on l'a déjà dit, s'adresse donc à Werner Heisenberg, savant allemand qui a failli donner la bombe atomique à Hitler et qui a reculé au dernier moment. Heisenberg n'a pas voulu quitter l'Allemagne quand Hitler a pris le pouvoir parce que c'était son pays, parce qu'il ne se voyait pas vivre ailleurs. Il s'est même inscrit au parti nazi, au parti national-socialiste, pour pouvoir continuer à travailler. Et Jérôme Ferrari s'adresse à lui en gros en disant « Werner Heisenberg, vous êtes resté en Allemagne, mais vous n'êtes pas un monstre. Werner Heisenberg, vous êtes un humaniste, vous jouez du piano, vous faites de la musique, mais vous avez travaillé pour les nazis sur des armes secrètes et vous avez fait donner à Hitler la bombe atomique. » Alors je simplifie parce que la pensée de Jérôme Ferrari, enfin la pensée de l'auteur, narrateur dans ce livre, est plus nuancée et elle va même jusqu'à l'empathie avec Werner Heisenberg. On peut avoir de la sympathie pour ce personnage terriblement ambigu et très contestable et qui a été très contesté après la guerre. Alors justement, l'autre pôle de ce grand livre, face à l'horreur absolue, c'est la beauté de l'âme humaine, du monde, de la vie. La beauté, certes, toujours menacée par le mal, par les avancées terrifiantes de la science et de la technique. En fait, le sujet de ce livre, comme l'explique la quatrième de couverture, qui n'est pas signé mais qui est peut-être de Jérôme Ferrari lui-même, c'est que Jérôme Ferrari met en scène, telle une chute d'Icare toujours recommencée, la rencontre obstinément compromise entre l'âme de l'homme et la mystérieuse beauté du monde que ne cesse de confisquer le dévoiement de la théorie en pratique et la corrosion des splendides innocences premières. La beauté du monde, je trouve que Jérôme Ferrari nous la donne vraiment dans ce passage que je vais vous lire. Du sultanat d'Oman, aux rives du Golfe, dont les Perses et les Arabes se disputent encore l'honneur d'être les héros éponymes, à travers les sables qui furent la demeure séculaire de Bédouins, pour lesquels nulle beauté, si ce n'est celle de Dieu, ne surpassait la beauté de la poésie, il reste sans doute encore des hommes pour s'éblouir des vers incomparables qu'Al-Mutanabi composa il y a plus de 1000 ans. Les chevaux, le désert et la nuit me connaissent, et l'arc et l'épée, le papier et la plume. Mais plus personne ne peut en reprendre à son compte l'orgueil incommensurable. Ils sont devenus les reliques muettes d'un monde soudainement disparu, un trésor antique, étrange et vénéré, qui lui est désormais d'un éclat incompréhensible dans le sanctuaire d'un temple vide. Nul doute que pour l'auteur et aussi pour le lecteur, en tout cas pour moi, qui suis si sensible à la poésie, nulle beauté, si ce n'est celle de Dieu, ne surpasse la beauté de la poésie. Dans les dernières pages, alors je sais bien qu'il ne faut pas dévoiler la fin d'un livre, mais comme il ne s'agit pas d'un thriller, comme il ne s'agit pas d'un roman policier, je vous dis quand même les dernières phrases du livre. Dans les dernières pages, le narrateur-auteur, devenu soldat américain, rencontre enfin Werner Heisenberg, qui n'est pour lui qu'un savant ennemi, qu'il pourrait ou même qu'il devrait haïr ou du moins mépriser. Mais les deux hommes vont communier dans la beauté de la nature et le livre se termine par cette phrase « De ma vie, je n'ai jamais rien vu de plus beau ». C'était donc le principe de Jérôme Ferrari, publié par Actes Sud très récemment, puisque c'était en mars 2015 que ce livre a été publié.
Va maintenant vous présenter une bande dessinée, Svoboda, de Chris et de Jean-Denis Pendanx.
J'aimerais bien vous présenter cette bande dessinée qui parle de l'histoire des légionnaires tchèques pendant la Grande Guerre. C'est une histoire absolument inconnue en France et très peu connue dans mon pays d'origine, la République tchèque. Le titre, c'est Svoboda, donc la liberté en tchèque. Ses auteurs sont donc dessinateurs Jean-Denis Pendanx et scénariste Chris, qui est déjà auteur d'autres bandes dessinées sur la Grande Guerre, comme Notre Mère la Guerre ou À nos mémoires. Pendant ses recherches, il a découvert cette histoire incroyable, l'histoire des soldats tchèques qui faisaient partie de l'armée austro-hongroise et qui, en se trouvant sur le front russe, désertaient massivement par régiment entier pour rejoindre l'armée russe. Ils espéraient que la Russie pourrait les aider à sortir de l'Empire austro-hongrois et à créer un État indépendant. La France soutient également les efforts des hommes politiques tchèques qui se battent depuis des années pour l'indépendance de cette nation. Une partie de Tchèques rêve de la monarchie royale à la russe et une autre partie veut créer une république démocratique d'après le modèle français en s'inspirant des idéaux de la Révolution française et de sa constitution. Le tsar refuse la demande des soldats tchèques à intégrer l'armée russe car sa femme, qui est allemande, déteste les Tchèques. Après la révolution bolchevique de 1917, ces soldats sont mis hors la loi par Trotsky et en tant que déserteurs peuvent être fusillés. Entre-temps, avec les soldats slovaques, ils représentent une armée de 70 000 hommes. Heureusement, à ce moment-là, l'armée française les prend sous sa protection et les intègre dans ses rangs. Une délégation d'officiers français part en Russie pour encadrer et former ses légionnaires. Et comme elle ne peut pas passer par l'Europe, elle fait le tour du monde pour les rejoindre. Elle part de Brest par bateau, traverse l'Atlantique, les États-Unis, le Pacifique, arrive à Vladivostok et traverse la Sibérie pour rejoindre les Tchèques à 600 km de Moscou. Et cette armée de légionnaires tchèques et slovaques fait pendant 3 ans, entre 1917 et 1920, le même trajet, mais dans le sens inverse, pour rentrer chez eux. Ils s'emparent des trains pour traverser la Sibérie, et ces trains comptent au total 20 000 wagons. Leur vie est organisée dans ces trains comme dans une ville sur les rails. Il y a une boulangerie, on y trouve une poste, un bar, un restaurant, un journal quotidien, et même un atelier de couture. Ces soldats rentrent donc en 1920, après cette épopée dans leur pays, dans leur nouveau pays, ce qui est donc la Tchécoslovaquie, créée entre-temps le 28 octobre 1918. Pour les personnages principaux, le scénariste Chris s'est inspiré des personnes authentiques qui ont vécu cette aventure. On y trouve un jeune peintre, Pepa, qui avait pour modèle le peintre tchèque Jindřich Vlček. L'ami de Pepa, qui s'appelle Jaroslav Švejk, est une synthèse de l'écrivain tchèque Jaroslav Hašek et de personnage principal de son roman « Le brave soldat Švejk ». Jaroslav Hašek, qui se trouve dans l'armée austro-hongroise, déserte comme le peintre Vlček, mais lui rejoint l'armée rouge et il devient commissaire politique. Après la guerre, il écrit son célèbre roman antimilitariste et toujours dans la provocation et dans la dérision comme son héros, brave soldat Švejk, et un petit peu aussi comme par exemple Coluche ou des proches en France, il crée un parti politique en Tchécoslovaquie. Ce parti s'appelle le Parti du Progrès Modéré dans la limite de la loi. Chris s'est servi de ses discours politiques pour construire le discours de son personnage Jaroslav Švejk. À côté de noms de héros, on retrouve une belle et jeune femme. Ici, le scénariste a pris pour modèle une jeune aristocrate autrichienne, Natasha Kinsky, qui part au front russe comme infirmière de la Croix-Rouge pour trouver et soigner son frère blessé. L'histoire des légionnaires tchèques aurait dû être oubliée, car après la révolution communiste en 1948, les autorités tchécoslovaques voulaient effacer cette page d'histoire. Ils n'appréciaient pas du tout que les légionnaires se battaient à côté de l'armée blanche contre l'armée rouge. C'est pour ça que je n'ai jamais appris cette histoire à l'école. Je savais que les légionnaires existaient parce que mon grand-père était l'un des leurs. Je ne l'ai jamais connu. Je redécouvre cette page de l'histoire de mon pays et de mon grand-père grâce à Chris, grâce à son travail de recherche est remarquable. Parce que comme il est de sa formation d'origine historien, il a rassemblé énormément de photos, d'images d'archives et de témoignages pour retranscrire cette incroyable épopée des légionnaires tchèques, de ces soldats sans patrie, de cette nation en marche à travers le monde dans la recherche de leur identité nationale. Svoboda, ce carnet de guerre imaginaire d'un combattant de la Légion tchèque, était publié en deux tomes. Le premier en 2011, il s'appelle « De Prague à Tcheliabinsk ». Le deuxième en 2012, qui s'intitule « Yekaterinburg », était 1918. C'était publié par la maison d'édition française Futuropolis. Je vais vous lire maintenant deux extraits de début du livre. 7 mars 1915. Ça y est, le régiment tout entier s'est rendu aux Russes, au col de Doukla, dans les Carpates. Il faut dire que le 91e est entièrement composé de braves et bons tchèques. J'y ai d'ailleurs retrouvé un jeune peintre idéaliste, déjà rencontré à Prague, Josef Tcherny. On le surnomme Pepa, Noiro, mais c'est à cause de ses origines juives et slovaques. Car pour le reste, le gamin est la pureté incarnée. Il ne cesse de me croquer à coups de crayon et à longueur de journée. Il me plaît. Mes compagnons rêvent désormais d'indépendance et de liberté, d'une république tchèque ou d'une monarchie de Bohême, promise, paraît-il, par les alliés. Et ils ont demandé au tsar notre incorporation à l'armée russe. J'ai rajouté aux revendications quelques bouteilles de vodka et des vierges ukrainiennes pour chacun. Je ne sais pas si ça va marcher. 26 mars 1918, entre Penza et Samara. Et voilà, les Rouges ont fait la paix avec les empires centraux et nous avons dû quitter l'Ukraine. Ça ne sent pas bon pour nous. Heureusement, nous sommes désormais officiellement des légionnaires tchèques, faisant partie de l'armée française. Cela nous protège au milieu de la guerre civile qui se développe partout en Russie. Mais quand j'y réfléchis, c'est déjà la troisième armée pour laquelle nous combattons, soldats perdus d'une nation sans pays. Nous devons rejoindre Vladivostok en train afin d'y être embarqués pour la France. C'était Svoboda de Jean-Denis Pendanx et de Chris.
Va maintenant vous présenter Entorse de Philippe Mathieu.
Je trouve ce premier roman original dans le sens où son héros, Léo, est plutôt un anti-héros. Léo est un homme qui ne décide pas de sa vie, se laisse vivre au gré des situations. Il semble désabusé alors qu'il ne l'est pas. Il serait plutôt mélancolique. Les événements se succèdent dans lesquels il se trouve embarqué, malgré lui. Sa copine le quitte, lassée par lui. Ça le touche et le blesse. Mais il se décrit alors presque extérieur à lui-même et bien conscient qu'il ne va rien faire si ce n'est laisser le temps agir. Le hasard l'entraîne à garder une chatte alors qu'il déteste les chats. On le suit alors dans ses pérégrinations pour retrouver la propriétaire de la chatte. Mais les aléas des rencontres font qu'il n'y arrive pas par le chemin le plus direct. J'ai trouvé l'écriture de ce roman très fine, précise, colorée. Le héros pourrait être horripilant dans ses hésitations permanentes, mais il est attachant parce qu'on sent toujours qu'il se moque gentiment de lui-même. au cours du roman, il se pourrait que son rêve jamais réalisé soit peut-être enfin à sa portée. Mais saura-t-il saisir l'opportunité ? Je vais vous en lire quelques passages. Page 12. J'avais besoin de mouvement, comme des impatiences dans les jambes, et tout autant l'envie de rester spectateur, regarder mon histoire virer à la déconfiture sans lutter. Je me disais que c'était bien moi, ça, vouloir être dedans et dehors tout à la fois. Je me disais que j'avais deux possibilités. Je les énumérais. Rentrer chez moi, attendre, observer le plafond, dormir. Foutre le feu à mon appartement, sortir dans la rue et tirer sur tout ce qui bouge. Je me disais qu'avec un peu de chance, je pourrais trouver un compromis entre les deux. Un petit peu plus loin, dans une des rencontres hasardeuses. Et puis la mer elle-même disparut, effacée par un soleil déchaîné qui diluait tout le paysage dans sa lumière. Ne subsistait qu'un long tunnel étincelant, d'où me parvenaient toujours les voix mêlées de Florence et de Mathilde, en un murmure dont le sens précis m'échappait chaque fois que je croyais m'en rapprocher. Je courais lourdement sous le soleil et j'avais chaud, incroyablement chaud dans mon costume noir, un costume d'enterrement. Un poids terrible m'écrasait. J'ouvris les yeux. Pourquoi avoir rêvé d'un costume d'enterrement ? Et page 120. Nous nous précipitâmes pour aider Baptiste. Paul était incroyablement lourd, un bruit sortait encore de sa gorge. Lorsque la corde céda enfin, le poids de Paul nous fit tomber, entraînant la chaise et Déborah dans notre chute. Je me retrouvais allongée sur Baptiste et Raphaël, la tête de Paul sur mon ventre, me regardait sans me voir. Déborah, à califourchon sur lui, un tatouage tribal sur le sein, révélé par sa robe dont une bretelle avait glissé, tenant toujours son couteau effilé à la main. Aucun de nous n'osait toucher la corde autour de son cou. Baptiste fut le premier à se décider. Il glissa ses doigts entre la peau tuméfiée et la cordelette, tira de l'autre main sur le nœud, puis l'ayant suffisamment desserré, fit glisser la boucle autour de la grosse tête de Paul. C'est donc un premier roman. Je trouve que c'est un très très bon début. J'ai aperçu l'auteur, Philippe Mathieu, dans un moment de vie difficile, au milieu d'autres personnes. Sa femme Corinne, amie d'amis, nous expliquait ses démarches de nouvel écrivain, à l'affût de tout ce qui pouvait enrichir son imagination. S'échappant pour aller vadrouiller, s'imprégner d'ambiance, de lieux, qui, il le savait, lui serviraient un jour ou l'autre dans son écriture. Mon frère m'a prêté ce livre. Il se trouve qu'il a croisé par hasard Philippe Mathieu il y a quelques semaines. Celui-ci lui a dit que son deuxième livre était sur le point de paraître. Je suis allée sur le site de Buchet-Chastel, l'éditeur. Ce deuxième livre n'y apparaît pas encore, mais j'espère que c'est pour très bientôt. C'était donc « Entorse » de Philippe Mathieu, roman publié en janvier 2014 chez Buchet-Chastel.
Alphonsine va maintenant nous parler de La Malle d'Isabelle Marie.
Alors, La Malle, donc d'Isabelle Marie aux éditions Grasset. L'auteur est née en 1943 à Barcelone. Elle est psychanalyste de profession et elle a écrit 4 romans. La Malle, donc, est un roman posthume. Le 28 septembre 1996, Isabelle Marie, alors qu'elle venait d'achever son roman, se donnait la mort. C'est une histoire pas banale. D'une vie familiale très complexe, abandonnée par son père et par sa mère, Léone, elle sera élevée par Maria à Barcelone, ensuite à Paris. Dans un style recherché, la narratrice évoque sa difficulté à vivre, à affronter un destin tragique et douloureux. La vie de l'héroïne se confond souvent avec celle de l'auteur. Elle nous emmène donc dans un voyage à travers le temps, de sa petite enfance à Barcelone jusqu'à ses 4 ans et son départ pour Paris. Je vais vous lire déjà 2-3 extraits pour illustrer le style. Maria avait 18 ans et moi à peine 3 semaines quand elle fut contactée. Léone, en prison, se remettait difficilement de ses couches. Elle n'avait pas de lait et je maigrissais. Nous étions en danger et notre mort attendue. Il fallait de toute urgence m'alimenter, me soigner. Il faisait froid. Février 43. Elle me prit chez elle avec ses parents et me fit baptiser au plus vite, unique moyen alors pour obtenir quelques secours des œuvres de charité. Disparu depuis un quart de siècle, le revoici, jaillissant d'une triomphale bourrasque, mon mauvais caractère. Ce fut l'ouverture d'une malcabine qui provoqua sa brusque rémanence, apportant l'écho de mes rebuffades d'enfant, muselé par la menace. De cette pétulance, rien n'était resté. Les couleurs s'étaient d'un coup ternies. Ma langue, mon pays, ma famille, tout s'était perdu. Jeté dans une voiture, transporté de l'autre côté des Pyrénées, je fus laissé à Paris comme un chien à la SPA, sans un mot, et nul ne revint jamais m'y chercher. Le nom que je portais disparut. Il n'y eut plus personne pour s'en souvenir. J'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille, j'étais une autre, dans un autre pays, je devais oublier, apprendre une langue étrangère. Toujours dans son enfance. Dans l'escalier de la rue Louise Michel, ses talons tapaient secs et son parfum, quand elle entrait, emplissait les 3 pièces. Elle parle de sa mère. Elle ne découvrait pas ses doigts pour serrer la main de Louise, qu'elle paraissait repousser du bout des ongles, le bras droit tendu pour maintenir entre elles la plus grande distance possible. Je m'approchais. Elle m'arrêtait. Ciel, quelle odeur ! Louise, qu'a-t-elle donc eu à déjeuner ? Une fois, tous les 3-4 ans, elle passait vérifier combien j'étais vilaine, malodorante, inéduquée, mais toujours vivante. Elle ne pouvait me reprendre, ni même m'emmener promener. Chaque visite la confirmait dans sa décision. Elle avait bien fait de me laisser. Pressée, elle s'esquivait, la conscience en paix. Louise souriait. Si nous n'étions pas là. Et ensuite, elle va nous parler de sa vie de femme adulte, mariée. Elle aura 2 enfants, mais qu'elle n'a pas vraiment souhaité. Et là, je vais vous lire un 4e extrait. Et elle vient d'accoucher et elle dit « Docteur, je ne vous dirai pas merci à celui qui m'avait trafiqué comme une poignée de boyaux. Pour une si jolie petite fille, ça en valait la peine. » C'était la voix mondaine du docteur. La réplique m'échappa. « Quelle vire !» Il crut avoir mal entendu et dans son effort pour me comprendre, transcrivit. Prénom, charmant, Elvire. Le prénom était resté. Elvire aussi. Seul Henri était content. Il paraît que ça donnait sens à sa vie. Pour moi, ça en faisait une impasse. Et quand je me suis de nouveau enceinte, alors qu'Elvire n'avait que 3 mois, je filais chez le gynécologue sans rien dire à Henri. Je voulais avorter. Crime à l'époque. Je voulais vivre. Le patricien m'y conduisit et je compris qu'il en serait de même chez tous les médecins de la ville. Il me dit « Un mari charmant, dont le cabinet ne disait pas, une fille en parfaite santé. » Des beaux parents attentionnés, je n'avais aucun souci. J'étais devenue une femme à la maison. Henri, ne voulant pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle, aimait me savoir disponible, c'est-à-dire à son service. Alors, je pense que ces extraits illustrent quand même à merveille le talent de conteuse d'Isabelle Marie. Moi, je vous invite à le lire, car je trouve ce roman talentueux, bien que très émouvant. C'était « La Malle » d'Isabelle Marie. Thank you.
Nathanaël va vous présenter Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, paru chez Gallimard dans la collection du monde entier.
Americana est le troisième roman de la Nigériane Adichie, Chimamanda Ngozi, romancière africaine la plus talentueuse de sa génération. Elle partage sa vie entre les États-Unis et son Nigeria natal. Elle raconte dans Americana ce que signifie d'être noire dans la société américaine où la perception de l'Afrique est encore fortement déterminée par l'histoire esclavagiste. Et l'actualité d'ailleurs nous rappelle aujourd'hui la difficulté d'être noire aux USA. La romancière qui partage sa vie depuis l'âge de 19 ans entre le Nigeria et les États-Unis connaît de l'intérieur la difficulté d'être noire dans le pays de Barack Obama et la tension toujours vive qui existe entre les Africains américains et les émigrés africains arrivés plus récemment. Son récit puise son inspiration en grande partie dans son expérience personnelle et aussi dans le vécu de ses amis. Son héroïne, Ife Melou, est une expatriée comme elle. Elle a décidé d'aller étudier aux USA car elle a obtenu une bourse. Elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze. Aux USA, elle va devenir une blogueuse à succès avec un blog intitulé « Observations diverses sur les Noirs américains », ceux qu'on appelait jadis les nègres, par une Noire non-américaine. Sylvie va nous lire un extrait de ce blog.
Comprendre l'Amérique pour les Noirs non-américains. À quoi aspirent les WAPS? Le professeur Hunk a un collègue professeur invité, un juif avec accent prononcé de ces pays d'Europe où la plupart des gens boivent un verre d'antisémitisme au petit déjeuner. Donc le professeur Hunk parlait des droits civiques et le professeur juif dit « Les Noirs n'ont pas souffert comme les Juifs ». À quoi le professeur Hunk répond « Allons, sommes-nous aux Jeux Olympiques de l'oppression ?» Le professeur juif n'était pas au courant de l'expression. Mais « Jeux Olympiques de l'oppression » est celle qu'emploient les libéraux américains intelligents pour vous donner l'impression d'être stupide et vous obliger à la boucler. Mais en réalité, les Jeux Olympiques de l'oppression se déroulent sous nos yeux. Les minorités raciales en Amérique, noirs, latinos, asiatiques et juifs, sont toutes couvertes de merde par les blancs. Des merdes différentes, mais de la merde quand même. Chacune croit secrètement recevoir le pire. Non, il n'existe pas une ligue unie des opprimés. Cependant, tous les autres croient être supérieurs aux noirs parce que, eh bien, parce qu'ils ne sont pas noirs. Prenez Lily par exemple. La femme qui faisait le ménage chez ma tante dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, peau de couleur café, cheveux noirs, parlant espagnol. Elle était hautaine. Elle manquait de respect, faisait mal le ménage, avait des exigences. Ma tante croyait que Lily n'aimait pas travailler pour des noirs. Avant de finir par la renvoyer, elle dit « Cette idiote, elle se prend pour une blanche. » Donc, être blanc est la situation à laquelle on aspire. Pas tout le monde, bien sûr, mais de nombreuses minorités ont une attirance conflictuelle pour la blancheur WASP, ou plus précisément, pour les privilèges de la blancheur WASP. Ils n'aiment probablement pas vraiment la peau blanche, mais ils aiment certainement pouvoir entrer dans un magasin sans être suivis par un type de la sécurité. Bouffer du goy et en brouter aussi, comme dit le grand Philippe Roth. Alors, si tout le monde en Amérique aspire à être WAPS, à quoi aspirent les WAPS? Quelqu'un le sait-il?
Le récit d'Ife Melou contient en sourdine celui d'Obinze, son amour, dont le parcours parallèle d'émigré nigérian, lui, en Angleterre, dont l'émigration, pour lui, est vécue comme beaucoup plus précaire, comme aussi une perte d'humanité, et surtout, il se trouve face à l'incompréhension de ceux qu'il voit arriver, même si ce sont des amis. Il se trouve à un dîner, et voilà la réflexion auquel il se trouve confronté.
Il ne comprenait pas que des gens comme lui, qui avaient été bien nourris, n'avaient pas manqué d'eau, mais étaient englués dans l'insatisfaction, conditionnés depuis leur naissance à regarder ailleurs, éternellement convaincus que la vie véritable se déroulait dans cet ailleurs, étaient aujourd'hui prêts à commettre des actes dangereux, des actes illégaux, pour pouvoir partir, bien qu'aucun d'entre eux ne meure de faim, n'ait été violé ou ne fuit des villages incendiés, simplement avides d'avoir le choix, avides de certitude.
Adichie et son héroïne, Ifemelu, dresse un constat cruel de la société américaine et de la situation et tente d'en expliciter les choses. Donc encore un petit extrait de son blog.
Comprendre l'Amérique pour un noir non américain. Quelques explications sur la signification réelle des choses. 1. De tous leurs préjugés culturels, c'est la race qui pose le plus de problèmes aux Américains. Si vous avez une conversation avec un Américain, que vous souhaitez discuter d'un sujet racial qui vous paraît intéressant et que votre interlocuteur déclare « Oh, c'est simpliste de dire qu'il s'agit de race, le racisme est tellement complexe », c'est la preuve qu'il préfère que vous la boucliez. Car il est vrai que le racisme est complexe. De nombreux abolitionnistes souhaitaient libérer des esclaves, mais ne voulaient pas voir des Noirs vivre dans leur voisinage. Beaucoup de gens aujourd'hui acceptent volontiers d'avoir une nounou noire ou un chauffeur noir, mais soyez sûr qu'ils n'ont pas envie d'avoir un boss noir. Ce qui est simpliste, c'est de dire « c'est tellement complexe ». Mais mieux vaut la boucler, particulièrement si vous attendez une faveur ou un job de l'Américain en question.
Americana, qui fait référence au surnom ironique que les Nigérians attribuent à leurs expatriés qui se sont un peu trop américanisés, est un grand récit initiatique qui mène notre héroïne du Nigeria aux USA et des USA au Nigeria, où elle va peut-être retrouver son amour. Donc c'était Chimamanda Ngozi Adichie pour Americana.
Robert va maintenant vous présenter Le cœur du pélican de Cécile Coulon. Ça sera notre dernier livre. Ah non, ah ça c'est déjà fait. Excusez-moi. Robert va maintenant vous présenter La petite qui avait avalé un nuage comme la tour Eiffel, grand comme la tour Eiffel, de Romain Portulas.
Portulas. Oui, c'est Portulas, pas Portulas. Sylvie est pas trop dans le coup aujourd'hui. Enfin, on le dira pas, hein. Donc, rien que le titre qu'elle a dit d'une manière approximative, je vais vous le redire. Donc, une petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Je fais un peu d'humour parce que le livre est amusant, donc on peut y aller sans problème. Vous voyez, rien que le titre, déjà, c'est toute une histoire. C'est le deuxième roman de Romain Portulas. Le premier, lui aussi, avait un titre à rallonge puisque c'était « Le voyage ». Extraordinaire du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Il fallait le trouver, ce titre. Et ces deux romans sont tous les deux vraiment très drôles. Mais le deuxième a un plus, il est émouvant, très émouvant. Pour vous mettre dans l'ambiance assez particulière de cette histoire, je vous lis un premier extrait. Donc, il y a un des personnages qui est le gars de l'aviation, et puis là il est chez son coiffeur et il raconte l'histoire en quelque sorte au coiffeur. Si je résume, votre facteur qui est une factrice là c'est le coiffeur qui parle, fait irruption dans votre tour de contrôle un beau jour en maillot de bain, alors que la plage la plus proche se trouve à des centaines de kilomètres et vous demande la permission de décoller de votre aéroport en battant des bras comme une poule. Ouais, c'est assez bien résumé, oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Me demanda-t-il, sans doute pour voir jusqu'où mon imagination délirante pouvait aller. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Ben, je ne sais pas, je ne travaille pas dans l'aviation. Puis je n'ai pas l'habitude de voir débarquer des jolies femmes à moitié à poil dans mon salon de coiffure. Bon, ben bref, elle m'a regardé avec ses yeux de poupée en porcelaine et m'a dit « Je m'appelle Providence, Providence Dupois ». Puis elle a attendu que ses paroles fassent leur petit effet sur moi. On aurait dit qu'elle brûlait sa dernière cartouche. Je pense qu'elle m'a dit son nom pour que je cesse de la considérer comme une simple factrice. J'étais si déboussolé que pendant quelques secondes, j'ai même pensé que c'était, vous savez, une fille avec qui j'aurais eu une aventure et que je n'aurais pas reconnue. Bon, j'ai eu mon petit succès dans ma jeunesse. Mais il n'y avait pas de doute, même sans sa casquette et son petit gilet ringard bleu marine, cette super canon, c'était bien ma factrice. Depuis quelques secondes, le coiffeur avait retiré son peigne et ses ciseaux de mes cheveux crépus et les tenait en suspension dans l'air. « Vous avez bien dit Providence Dupois ?»« La Providence Dupois » s'exclama-t-il tout en posant ses instruments sur la tablette en verre devant moi comme atteint d'une subite et profonde fatigue. C'était la première fois qu'il manifestait un quelconque signe d'intérêt depuis que nous avions entamé cette conversation, enfin, depuis que j'avais entamé ce monologue. « Vous voulez dire la femme dont on a parlé dans les journaux, celle qui s'est envolée ?»« Elle-même, » répondis-je étonné qu'il la connaisse. « Mais bien sûr, sur le moment, pour moi, ce n'était que ma factrice, la bombe sexuelle de la 4L jaune. » Le commerçant s'affala sur le fauteuil vide qui se trouvait à côté de moi. On aurait dit qu'il venait de se recevoir une station spatiale sur les épaules. Donc, il s'agit d'une factrice qui demande à un contrôleur aérien l'autorisation de s'envoler. Pour aller où ? Ben, pour aller au Maroc, pour récupérer une petite fille marocaine qui est très malade. Je vais maintenant vous lire un deuxième passage au sujet de cette petite fille et de sa maladie, et de ce fameux nuage. Avaler un nuage, c'était Providence qui avait trouvé cette expression pour parler de sa maladie, la mucoviscidose. C'était bien trouvé. Ce que la petite fille ressentait au fond des poumons, c'était un peu ça. Une douleur vaporeuse et sournoise qui l'étouffait légèrement, mais sûrement comme si elle avait avalé un jour par inattention un gros cumulonimbus et qu'il était resté depuis coincé en elle. Après tout, elle n'avait qu'un nuage. C'était beau un nuage. Peut-être que son goût pour la météorologie et son souhait de devenir pâtissière spationaute, oui, il en faut dans l'espace, lui venait de ce mal. Apprendre à connaître ce nuage, c'était un peu apprendre à l'apprivoiser, à dominer et à réduire la souffrance. Mais c'était dur à apprivoiser un nuage. Il fallait déjà l'attraper. Or même, en courant vite à la surface de la Terre, on n'arrivait jamais à courir plus vite qu'eux. Elle avait déjà essayé, et puis on ne lui avait jamais appris à dompter les nuages. Au Maroc, on n'apprenait pas aux gens, et encore moins aux femmes, à dompter les nuages. C'était bien dommage. Mais le temps d'un voyage spatial n'était pas encore venu, et ces derniers jours, le maléfique nuage était redevenu sauvage. Les crises, beaucoup plus violentes, chaque fois se rapprochaient de plus en plus. Il fallait qu'elle tienne bon, et c'était d'autant plus facile maintenant qu'elle savait que sa mère viendrait la chercher pour la ramener avec elle en France. La dernière fois qu'elle était venue, car elle venait souvent la voir, Providence lui avait montré des photos de sa chambre et de ses jouets qui l'attendaient là-bas, à Paris, la ville de Mickey et d'Euro Disney. Elle lui avait dit qu'elle allaient bientôt pouvoir grimper sur les montagnes russes ensemble et s'habiller comme des princesses et des contes, parce que les juges lui avaient enfin donné le droit d'adoption et que cela signifiait qu'elle était devenue sa maman aussi aux yeux de la loi. Le jour où elle avait appris cela, la fillette avait bondi du lit et galopé dans tout le dortoir, c'est le dortoir de l'hôpital, en criant la bonne nouvelle, diffusant un parfum de bonheur autour d'elle qui avait fait naître un sourire sur toutes les lèvres et fait oublier un instant les soucis de santé qui touchaient chacune de ces femmes. Oui, il fallait tenir bon, tenir jusqu'à ce que maman arrive
Elle lui avait promis qu'elle viendrait la chercher aujourd'hui. Alors sa maman va-t-elle réussir à venir la chercher? Mais pourquoi veut-elle y aller en volant? Pourquoi ne prend-elle pas tout simplement un avion? Eh bien parce que les avions ce jour-là malheureusement sont cloués au sol à cause du nuage de cendres du volcan islandais. Vous vous souvenez de ce nuage qui avait tout arrêté au niveau de la circulation aérienne? Comment a-t-elle appris à voler? Y arrivera-t-elle? Pourra-t-elle ramener sa fille adoptive à Paris? Voilà autant de questions dont vous aurez la réponse en lisant ce livre à la fois amusant et émouvant. Je vous en rappelle le titre, « La petite fille qui avait avalé un nuage aussi gros que la tour Eiffel ». Son auteur Romain Puertolas, et c'est aux éditions Le Dilettante.
Donc, je récapitule. Robert nous a présenté Le cœur du pélican de Cécile Coulon. Françoise et Jean-Loup, Le principe de Jérôme Ferrari. Blanca Svoboda de Chris pour le scénario et pour le dessin Pandax Jean-Denis. Chantal nous a présenté Entorse de Philippe Mathieu. Alphonsine, La malle d'Isabelle Marie. Nathanaël et Sylvie, Americana d'Adichie Chimamanda Ngozi. Et Robert, enfin, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Puertolas.
Nos prochains rendez-vous. Donc le mardi 19 mai aura lieu notre prochain comité de lecture à 18h à la médiathèque. Et comme cette date correspond au début de la fête du livre jeunesse, le thème de ce comité sera « Quand j'avais entre 10 et 20 ans, je lisais quoi ?» On gardera bien sûr, comme d'habitude, un temps pour nos dernières lectures. Le jeudi 21 mai suivra l'émission en direct des lecteurs sous les toits, à 15h sur votre fréquence. Et alors donc je vous rappelle, du 19 au 22 mai, la fête du livre jeunesse, d'éclat de lire à Manosque et de croque-livre à Fort-Calquier, avec de nombreux auteurs et illustrateurs jeunesse invités, des expositions, des jeux, des spectacles, des ateliers, des contes pour tous les âges, avec une matinée même pour les moins de 3 ans, la remise du prix littéraire des adolescents du département. Donc je vous conseille de prendre le catalogue qui est disponible dans tous les lieux culturels de Manosque et de Fort-Calquier, ainsi que dans les mairies, les MJC, etc. Voilà, sinon on vous dit bonne soirée. On remercie Emeline.
Merci à tous et à bientôt dans un mois alors.
Au revoir.
Au revoir.